Vous écoutez RTL.
Le dossier de béatification du père Jacques Hamel tient en trois cartons contenant près de 12 000 pages.
RTL.
Dans ces 11 500 pages, nous avons 600 pages d'audition des témoins, nous avons 5 000 pages d'homélie, 2 000 pages de revue de presse, et puis après il y a des pages de procédure.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le tribunal ecclésiastique a donc bouclé une enquête minutieuse afin d'accélérer le processus de béatification ouvert il y a moins de 2 ans.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour Christiane Rancé.
Bonjour.
Bonjour.
Ravie.
Heureux de vous retrouver.
De vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes écrivaine avec vous. On va découvrir ce chemin de croix pour être un saint ou une sainte. On évoquait dans la mise en nom de Jacques Hamel, le père Jacques Hamel. Déjà, qui est-il? Et il se dirige vers quoi? La sanctification? Il va être béatifié? Est-ce que c'est pour devenir saint ou quelqu'un d'autre?
Alors, on dit pour devenir saint, on dit pour être un saint, il faut être canonisé. Et
d'accord.
Ça correspond effectivement à des procédures qui sont très lentes. C'est bien d'avoir parlé d'un chemin de croix, des procédures lentes, puisqu'on doit d'abord être reconnu comme apte à prétendre à être un saint, c'est ce qu'on appelle être reconnu vénérable. À partir de là, on fait un procès, on ouvre, un postulateur ouvre des pièces, on fait une enquête pour ouvrir toutes les pièces qui va permettre d'être béatifié, c'est-à-dire on va reconnaître des vertus héroïques. Et une fois qu'on est béatifié, il faut ensuite qu'il y ait une deuxième procédure pour être canonisé. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour le moment, le père Jacques Hamel, qui est donc ce père qui a été assassiné pendant qu'il disait la messe, est dans une procédure de béatification.
On entendait dans la mise en nom de François Touchard, près de 12 000 pages, ça peut sembler surprenant. Que contient un dossier comme celui-là?
Alors, pour ce qui est de la procédure de béatification, on va chercher à montrer que la personne non seulement est morte d'une façon édifiante, ce qui est le cas du père Hamel, puisque lui, sa demande est faite sur le fait qu'il est mort ou serait mort en martyr. Donc on va établir s'il est vraiment mort en martyr, ça veut dire s'il a consenti à sa mort pour ne pas renier sa foi sans chercher non plus le martyr, parce que quand on veut absolument mourir et suicider, on ne peut pas être considéré comme un vrai martyr. Ensuite, il faut qu'il ait toute sa vie répondu, incarné ses vertus qu'on appelle des vertus théologales, c'est-à-dire les vertus de sainteté reconnues comme telles par l'Église, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité au sens grec, hein, c'est-à-dire l'amour du prochain, un ruissellement d'amour pour son prochain.
Ça veut dire qu'on a fait une sorte d'enquête sur le passé du père Hamel?
Sur le passé, oui, le passé, le futur, le présent, enfin les témoignages sont reçus avec une extrême vigilance, parce que il faut savoir qu'une fois que un homme ou une femme est béatifié, elle va ouvrir un procès en canonisation, et qu'à partir de là, quand il sera canonisé, la canonisation engage l'infaillibilité du pape. Donc imaginez qu'on découvre par exemple que le père Hamel ait pu avoir des histoires terribles, n'ait été, on va dire, martyr qu'au moment de la messe, mais qu'auparavant il s'est très très mal conduit. Donc il y a vraiment une enquête policière, c'est très très précis.
Ce que vous voulez dire, Christiane Rancé, c'est que ça peut prendre plusieurs années, c'est ça, pour être canonisé, voire plusieurs siècles?
Eh bien, regardez Jeanne d'Arc, hein, 5 siècles avant qu'elle soit canonisée.
Entre elle meurt en 1431.
Absolument, elle est canonisée en 1920 et quelques, je ne sais pas la date exacte, mais
1920,
voilà, donc 5 siècles après. Et entre sa béatification et sa canonisation, il y a eu encore, je crois, plusieurs années, dizaine d'années.
Le dossier faisait combien de pages pour Jeanne d'Arc? J'ose pas imaginer. C'était des dizaines de cartons, c'est
puis,
ça?
Oui, et puis en plus, Jeanne d'Arc, c'était très compliqué parce que c'est une sainte paradoxe. On dit être paradoxal. C'est une sainte qui a été une héroïne, qui a été une guerrière.
Oui.
Donc, elle a d'abord été brûlée comme sorcière. Ensuite, Charles VII qui s'est rendu compte que si elle était une sorcière, lui, il avait été, on va dire, amené au trône par une méchante. Donc, il a demandé qu'on revoie son procès qui avait été mené par, vous savez, le fameux cochon. C'était un nom prédestiné. Et ensuite, son dossier en béatification va être ouvert en 1860 et quelques, parce qu'il y a un culte qui est en train de ce qui s'est développé, notamment à Orléans. Il y a notamment des processions en l'honneur de Jeanne d'Arc, et le peuple la reconnaît sainte par Vox Populi. Donc à partir de ce moment-là, il y a des demandes qui sont faites, qui vont arriver chez l'évêque, et on va demander à l'évêque d'ouvrir un procès pour que, officiellement, cette espèce de sanctification qui est reconnue par le peuple soit reconnue aussi par l'Église.
Mais
c'est là que le procès commence.
Ouais, mais c'est toujours dans dans ce sens-là que ça se passe, ou alors il peut y avoir des personnages, des hauts personnages de l'Église qui vont faire, pardon du mot qui surprend, mais du lobbying, vous voyez, qui vont vouloir porter la candidature d'un futur saint.
Ah bien sûr, il y en a. Alors c'est maintenant beaucoup plus hiérarchisé. Au début étaient saints les martyrs, ensuite le peuple qui déclarait saints ces personnages qui surgissaient d'une façon incroyable dans leur vie et qui d'ailleurs opéraient des miracles. Puis ensuite, vers 900 et quelques, à la fin du 10e siècle, des évêques ont demandé, eux, ont pris l'initiative de ces sanctifications. Et en 1234, il y a tellement de saints qui sont déclarés par le peuple que le Vatican décide de mettre un peu d'ordre et de reprendre la main, on va dire, et de décider qui est saint et qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, vous avez par exemple le pape François qui a décidé d'utiliser beaucoup plus souvent que ses prédécesseurs une procédure qui s'appelle la procédure équipollente, c'est-à-dire c'est lui qui va décider qui est saint, déclarer, canoniser un personnage
tout seul, sans consulter personne,
sans une cérémonie particulière et sans consulter absolument personne. Il a canonisé comme ça un évêque canadien qui s'appelle Pierre de Laval. Il a canonisé Pierre Fabre, le compagnon d'Ignace de Loyola.
Christiane Rancé, vous publiez le dictionnaire amoureux des saints chez Plon. Il y a de l'amour chez les saints, bien sûr, mais aussi une odeur de sainteté, et ce n'est pas qu'une expression. Restez avec nous, les curieux, sur RTL.
Une canonisation est une décision du pape pour faire d'un simple catholique un véritable saint.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors, pour devenir saint, voici le mode d'emploi. Il faut être une personne morte, qui a lu la Bible pour accueillir la parole de Dieu.
C'est Denis Bonnec.
Il faut avoir été fidèle à l'Église et avoir pratiqué la charité.
Thomas Hugues. Sur RTL.
Et Toto qui chante Saint-Georges, on découvre comment on devient un saint ou une sainte avec l'écrivaine Christiane Rancé sur RTL. Et cette histoire de calendrier, c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi tel saint était lié à tel jour dans le calendrier. Ça date de quand et ça marche comment, ça?
Alors, quand en 1234, le pape Grégoire 11 ou 9, je me trompe toujours de barre, enfin, décide donc de mettre en place toutes les procédures de canonisation officielle par le Vatican, il va décréter des jours de culte, de vénération, et ces jours vont correspondre à la mort du saint. Pourquoi la mort du saint? Parce qu'évidemment, c'est le jour où il rentre au paradis, il monte au paradis, rentre dans la vie éternelle. Il n'y a que deux saints qui vont échapper à cette règle, c'est Saint Jean-Baptiste, puisque lui, il a été, on va dire, sanctifié dès le ventre de sa mère, puisque vous savez qu'il a tressailli de joie en reconnaissant Jésus qui était dans le ventre de Marie. Et puis, eh bien, votre saint patron, cher Thomas.
Saint Thomas d'Aquin.
On n'a jamais su pourquoi, mais Saint Thomas d'Aquin, la date de sa fête dans le calendrier a été fixée au jour de la translation de ses reliques. Ses reliques ont été installées à Toulouse, dans la basilique, Saint-Sernin, et on a fixé le jour de vénération de saint Thomas d'Aquin au jour de translation de ses reliques.
C'est 28 juillet. Janvier.
Je ne connais pas la date de ma fête.
Et qui était saint Thomas d'Aquin, Christiane? Quel a été son dessein pour qu'il mérite d'être un saint?
Alors, ça, c'est une chose qu'il faut savoir.
Ça peut peut-être vous donner des idées, Thomas.
On oublie. Non, mais à mon avis, Thomas répond parfaitement à la...
je crains le pire. Ça commence bien, ça va mal finir.
À la fois quelqu'un d'extraordinairement intelligent et d'extraordinairement charitable. C'est quelqu'un qui est effectivement tout à fait fasciné, qui est dans un regard et dans une conversion, c'est-à-dire il est tourné vers la lumière de Dieu, et il a à cœur deux choses, de transmettre cette vérité, cette connaissance qu'il a des textes, et en même temps il a à cœur de lier la raison et la foi.
C'était un philosophe?
C'était un philosophe et un théologien, on a parlé du thomisme ensuite, c'est quelqu'un qui s'est fondé à la fois sur l'enseignement des pères de l'Église et sur l'enseignement des philosophes grecs, notamment l'enseignement d'Aristote. Et il a apporté justement à l'Église cette lumière d'intelligence, cette verticalité, je dirais, c'est-à-dire de la sainteté n'est pas réservée aux simples gens qui seraient merveilleusement charitables, bons et qui fonderaient des monastères ou feraient la charité. Il y a aussi ceux qui ont travaillé, dédié toute leur vie à faire entendre la parole du Christ dans ses aspects les plus purs, quelquefois les les plus difficiles et qui ont voulu harmoniser la foi et la raison.
Christiane Rancé, je m'approche de Thomas Hugues et je sens comme une odeur de sainteté.
Ça suffit, de se moquer de moi.
D'où vient cette expression, l'odeur de sainteté, être bien vu, avoir la cote en quelque sorte?
Alors ça, l'expression est passée dans les, veut dire, proverbes, oui. Le langage courant, oui. en 1650 au XVIIe siècle. Mais le phénomène est bien antérieur. C'est-à-dire qu'on a découvert que des saints, quand ils étaient morts, ils ont été nombreux, dégageaient une odeur de sainteté,
ça a été quoi,
parfaitement. Alors, ça sent, d'après ce qu'ils ont senti, un mélange délicat de violette, de rose, un peu de mimosa, en fait un parfum de fleurs.
C'est incroyable.
Mais
ça,
un parfum de fleurs, un cocktail qui n'existe pas. C'est un parfum indéfinissable, suave et indicible.
Mais ça, c'est des études sérieuses qui sont un peu penchées là-dessus.
Il y a des témoignages tout à fait sérieux. Thérèse d'Avila, qui a été enterrée à toute allure, cachée, la pauvre, les sœurs chez qui elle est morte avaient tellement peur, vous savez, il y a le culte des reliques, avaient tellement peur que les autres carmélites viennent piquer le corps, qu'elles ont, à toute allure, enterré ce corps au fond d'une église et elles ont fait, débouler sur ce corps des cailloux, de la terre, enfin, et c'est le parfum que dégageait le corps de Sainte Thérèse, qui a révélé aux autres carmélites qui étaient venus la nuit pour retrouver son corps et la voler, sa présence. Et bien après, quand on a revoulu ouvrir le tombeau de Sainte Thérèse, peut-être 15 ans après, tous les gens présents, il n'y avait pas que des gens de l'église, ont été totalement submergés par ce parfum qui leur faisait carrément tourner la tête. Vous avez Sainte Rita, qui a été exactement dans le même cas, Sainte Cécile, il y a énormément de saints qui ont dégagé ce parfum,
cette odeur.
Et alors moi, il y a un autre saint, c'est Saint Patrick, qui me fait plutôt penser à la bière, mais on va vous raconter pourquoi dans un court instant sur RTL, à tout de suite.
14h, 15h.
Dieu. Ah, Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il y a?
Vous vous souvenez quand vous avez décidé de me nommer gardien du paradis, gardien de l'entrée?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Attends une minute. Et si t'es là, qui est-ce qui s'occupe de l'entrée? Ne me dis pas que t'as laissé l'entrée sans surveillance.
Des kangourous dans la citrouille, on n'a pas aimé, c'est facile. C'est la patronne de la gratouille. Je mettrai Serge à Sainte-Cécile.
Les curieux sont sur RTL.
Et l'on découvre les coulisses de la fabrique des saints et des saintes sur RTL avec l'écrivaine Christiane Rancé et ses saints et ses saintes qui accompagnent notre vie quotidienne aussi, comme ce Saint-Patrick qui est cher à mon Saint-Thomas à mes côtés, qu'on fête, un Saint-Patrick qu'on fête avec des litres de boissons à consommer pourtant avec modération et avec beaucoup de joie. Pour quelle raison, Christiane Rancé?
Ben c'est une habitude qui s'est prise parce que c'est un saint qui représente toute l'âme celtique, toute l'âme celte, qui représente l'Irlande. Et vous savez qu'il y a, c'est une communauté très importante aux États-Unis, qui est restée très importante aux États-Unis pour deux raisons. D'abord parce que c'était effectivement une diaspora. Et puis la seconde, ils étaient quand même catholiques dans un pays où les catholiques ont toujours été un peu considérés comme les pauvres, Donc il y a eu cette fête qui a été absolument extraordinaire, au point d'ailleurs qu'à Chicago, où la Saint-Patrick est, il y a beaucoup d'Irlandais, le jour de la fête de Saint-Patrick, je crois que c'est le 4 ou le 7 mars, je ne sais plus.
Oui, c'était il y a peu de temps.
Voilà, on teint la rivière en vert. Il y a des colorants qui sont déversés, vert couleur de l'Irlande, vert couleur du trèfle à trois feuilles.
Alors moi, j'ai beaucoup bu de bière à la Saint-Patrick, parce qu'on cherche des bonnes occasions quand on est étudiant d'aller boire un coup avec les copains. Donc j'ai beaucoup de bière. Mais en revanche, je suis incapable de vous dire qui était Saint-Patrick, quand il a vécu et quel lien il a avec l'âme celte.
Donc, alors, c'est un Breton qui a été enlevé par des barbares et emmené en Irlande où il a été vendu comme esclave à l'âge de 16 ans. Et il est arrivé, grâce à une vision du Christ, à s'échapper. Il est rentré en Bretagne. En Bretagne, il est devenu effectivement, après cette vision d'une croyance totalement convaincue et totalement convertie, il est parti faire un petit tour aux îles de Lérins. C'est lui qui aurait fondé donc le monastère sur l'île de Saint-Honorat. Et puis, il aurait été poussé par une conversion profonde de repartir pour l'Irlande pour convertir les barbares qu'il y avait vus, qui pratiquaient quand même des sacrifices humains. Donc, non seulement il voulait qu'on entende la parole du Christ, mais il voulait aussi que la paix règne. Donc, il est arrivé en Irlande. Il a convaincu le peuple irlandais par l'amour qui ruisselait de lui, par sa parole de paix, et ensuite par cette fameuse démonstration de la Sainte Trinité, qui était quand même quelque chose d'un peu compliqué pour tout le monde, en prenant une fameuse trèfle, en disant, voilà, vous avez une plante, c'est un trèfle, c'est une seule plante et pourtant elle a trois feuilles. Et le jour où il est arrivé à les convaincre de ça, tous les serpents, c'est-à-dire tout le mal, a disparu de l'île d'Irlande. Il n'y a pas un seul serpent en Irlande, donc aujourd'hui encore, grâce à Saint Patrick.
Christiane Rancet, il y a aussi tous ces saints patrons et ces saintes patronnes, je ne sais pas si on le dit au féminin couramment, mais par exemple, Sainte Cécile, qui est la patronne des musiciens, Sainte Geneviève, patronne des bergères, Sainte Rita, celle des causes désespérées. Pourquoi et quand est-ce qu'on leur a finalement attribué une mission à ces saints?
Alors, c'est venu là encore de deux fois de façon différente. Il y a soit l'Église décide que tel saint va être le saint patron de tel corps de métier, et puis il y a très souvent le peuple lui-même, parce que comme elle a beaucoup agi, ou elle a été, on va dire, elle-même, un saint Frusquin, je crois, a été cordonnier, donc il est devenu le patron des cordonniers en réponse à ce qu'ils étaient avant d'entrer en sainteté.
Et le peuple se choisit des saints surprenants, par exemple, je parlais de la bière, décidément, on va croire que je ne sais pas.
Bah pour les soifards, par exemple.
Il y a un saint soulard, c'est ça?
Alors ça, c'est très joli, parce qu'il y a toujours cet humour populaire, oui. Il y a toujours cet humour, et à la fois ce mélange de foi et de drôlerie.
C'est drôle, oui.
Et donc, effectivement, quand les gens, au lieu de se dévouer, font des prières au Christ, mais à la sainte bouteille, eh bien, on a créé un saint patron pour la sainte bouteille.
Moi, j'adore, pour les râleurs, c'est la saint Ruchignou.
Et franchement, ça, rien ça qu'à plaît. Entendre
moi qui aime bien râler, ça m'irait bien.
Souvent,
Christiane Rancet, dans votre dictionnaire amoureux des saints qui vient de paraître chez Plon, vous racontez aussi le destin du pape Jean-Paul II. Comment il a été canonisé?
Ah ben voilà, ça c'est justement ce retour à cette procédure de vox populi. Il a été, c'est-à-dire santo subito, le peuple est allé comme au Moyen-Âge sous les fenêtres du pape pour réclamer qu'il soit canonisé. C'est ce qu'on appelle par la vox populi santo subito.
Un saint peut-il être déchu de son titre? C'est la question que l'on se posera dans un instant sur RTL.
Et puis dans la seconde partie de notre émission, on va vous faire découvrir les secrets du métier de facteur.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Les saints et les saintes au cœur de notre curiosité avec l'écrivaine Christiane Rancet. Tiens, je me demandais, il y a combien de saints et de saintes sur Terre, toutes religions confondues?
Alors, qu'on connaisse, il y en a à peu près 50 000, mais dans les 50 000, je mets les béatifiés, donc les canonisés, les vénérables, et puis aussi, non seulement les saints catholiques, mais aussi les saints orthodoxes, car l'orthodoxie reconnaît aussi des saints, pas tout à fait selon les mêmes procédures, mais donc tous ensemble, on va dire qu'il y a quelques 50 000 saints.
Mais il n'y a pas assez de place dans le calendrier.
Non, ça alors bouge. C'est pour ça qu'il y a des queues, il y a des listes d'attente, mais que sur le calendrier, il y a le saint officiel, et puis derrière, il y en a beaucoup qu'on peut fêter le même jour.
Est-ce qu'on peut être déchu quand on est un saint?
Non. Quand vous êtes canonisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça engage l'infaillibilité pontificale. Donc le pape étant infaillible, la canonisation est infaillible. Mais il y a eu, notamment au moment de Vatican II et au moment du Concile de Trente, au moment de la Réforme, un moment où effectivement on a sorti du calendrier des saints dont on n'avait pas pu vraiment vérifier l'authenticité, qui avait été déclaré saint par le peuple, qui était quelquefois qu'on considérait être comme légendaire, donc ils ont été écartés.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.